Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Peut-on parler d'un nouvel espoir de paix au Mali? La question mérite d'être posée, d'être débattue ce matin après la signature en début de semaine d'un pacte de paix entre le gouvernement et les Nations Unies. Les ex-indépendantistes de la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme, le groupe armé pro-gouvernement, ont également été associés à cette initiative dont l'objectif est de relancer l'accord conclu il y a maintenant plus de 3 ans à Alger. Un accord dont la mise en œuvre est au point mort, mais même si, rappelez-vous, il y a quelques semaines, à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président Ibrahim Boubacar Keïta s'était félicité des avancées réalisées, mais tout le monde s'accorde à dire qu'il faut une nouvelle dynamique, d'où le pacte signé il y a quelques jours. Alors, il ne s'agit pas d'un nouvel accord, mais d'un texte dans lequel chaque protagoniste s'engage à accélérer la mise en œuvre du processus de paix. Reste à savoir, et c'est tout le débat que je vous propose ce matin, reste à savoir si ce document suffira à faire bouger les lignes. Vous nous appelez, vos réactions nous intéressent. 33 9 693 693 70. Vous qui êtes sur place, sur le terrain, dites-nous pourquoi est-il si compliqué d'appliquer l'accord de paix? Qui est responsable finalement de cette lenteur? On en parle ensemble durant les 20 prochaines minutes. Et pour lancer le débat, Gabriel est à Bamako. Bonjour Gabriel.
Oui, bonjour.
Bienvenue. Vous disiez au standard avoir l'impression finalement que personne n'y mettait du sien pour aller à la paix.
Oui, parce que déjà 2015, hein, maintenant ça fait 3 ans. Déjà signer un accord et puis il y a 3 ans déjà, s'il n'y a pas d'évolution. Moi je pense que tout le monde ne peut pas s'accorder à dire qu'il n'y a pas d'évolution si c'est pas réel. Ça veut dire que c'est une réelle vérité. Moi je pense que il faudrait commencer maintenant à prendre des sanctions. Des sanctions contre toutes les parties signateurs de l'accord. Maintenant,
mais quand, si vous, dites, dit qu'il y a quand vous dites Gabriel, vous dites il faut prendre des sanctions, c'est prévu. Il y a plus d'un an, le Conseil de sécurité de l'ONU adoptait un régime de sanctions contre tous ceux qui entravent l'application de l'accord. Le problème, c'est qu'à ce jour, aucune sanction n'a été prise.
Mais qu'en est-il de l'application de ces sanctions-là? On n'en a jamais vu. Voilà, moi, c'est de ça que je veux parler. Je souhaiterais qu'on commence à mettre en application ces sanctions qui sont prévues. S'il y a des sanctions, il faut les appliquer. Moi, je pense que si tout de suite on venait à interdire au gouvernement malien de participer à certaines rencontres ou bien d'avoir des bénéfices ou bien des dons de par-ci par-là venant de Nations Unies, moi, je pense que le gouvernement va faire des efforts. Si on interdisait le déplacement aux groupes armés, ils vont partout dans le monde, ils vont en France, aux États-Unis, en Allemagne. Il faut qu'on fasse une interdiction. Moi, je pense que les choses vont commencer à bouger à partir de là. Mais si on n'applique pas les sanctions, ça ne sert à rien de prendre des sanctions.
Donc ça veut dire, si j'entends bien, Gabriel, il faut que le gouvernement soit plus ferme à l'égard des groupes armés et que la communauté internationale le soit également en appliquant les sanctions prévues, hein, puisqu'elles ont été adoptées il y a un an et qu'en août dernier, le Conseil de sécurité a prolongé encore de 12 mois ce régime de sanctions. Vous dites, il est temps maintenant de passer à l'acte.
Exactement. Tant qu'on ne passera pas à l'acte, moi je vous dis, ni le gouvernement, ni les groupes armés, personne, ils vont tous penser que bon, on a signé, bon voilà maintenant, on va commencer à se promener. Et puis, parce que quand vous voyez les groupes armés, ils vont partout où ils veulent. Oui. On peut juste faire une interdiction de séjour dans tel pays. Et pour le gouvernement malien, on peut interdire maintenant aux organismes internationaux de faire des dons à l'État malien. Et vous allez voir que ça va bouger.
Mais vous avez l'impression que ce statu quo, finalement, contente tout le monde? Quand je dis tout le monde, les groupes armés que le gouvernement?
Oui, ben parce que les groupes armés, ils ont ce qu'ils veulent maintenant, ils se promènent comme ils veulent. Et le gouvernement aussi a la possibilité de se rendre à Kidal et avec l'accompagnement de l'aménagement et autres. Donc, ils se disent que bon, voilà, on va continuer comme ça et finir ce régime-là, quoi.
Ouais. Merci Gabriel, merci d'avoir lancé le débat sur la page Facebook de l'émission. Évidemment, des réactions. Il y a par exemple Sissoko qui nous dit qu'une bonne partie des Maliens ne veulent pas de cet accord imposé. Moumoun estime que le gouvernement malien doit rester très vigilant, car comment comprendre qu'un rapport accablant de l'ONU accuse les chefs des groupes armés d'être proches des terroristes? Alors effectivement, il y a eu ce rapport également qui pointe du doigt, pas forcément des chefs, mais des responsables de différents groupes armés, de collusion avec les groupes terroristes. Fousseini, bonjour.
Oui, bonjour Juan Gomez.
Alors vous êtes un peu plus optimiste que Gabriel à l'instant, puisque vous avez l'impression que la signature de ce pacte pour la paix permettra effectivement de relancer le processus.
Oui, je pense que cette signature vient à point nommé. Dans la mesure où les parties signataires restaient dans le statu quo. Mais cette signature va booster les choses. Mais il faudra faire aussi un peu attention à cela. C'est que moi je pointe du doigt un présumé duplicité des groupes terroristes. Mais moi je des groupes armés signataires de l'accord. Donc, je pense que cette signature va permettre que ces groupes...
Non, mais concrètement, Fousseini, concrètement, j'entends votre optimisme, mais pourquoi pensez-vous que ce pacte, qui n'est autre qu'un renouvellement d'engagement, peut modifier la donne?
Oui, parce que en réalité, comme je le disais tout de suite, les partis signataires se regardaient comme ça, et ils étaient au statu quo, rien ne bougeait.
Oui, mais enfin, il n'y a rien de nouveau dans le texte conclu en début de semaine, Fousseini. Alors pourquoi voulez-vous que ça change?
Oui, mais c'est une pression supplémentaire sur les parties signataires.
Oui. Abdelkader nous rejoint. Alors attendez, vous êtes optimiste, Fousseini. Abdelkader est à Bamako, bonjour.
Oui, bonjour, Wanda.
Vous comprenez le sentiment exprimé à l'instant par Fousseini, ce pacte pour la paix est une pression supplémentaire sur les protagonistes?
Non, je ne m'engage pas dans cette voie-là, Wanda, je suis désolé. Ce pacte n'est rien d'autre, ce pacte ne changera absolument rien à mon avis. Parce que le problème même, c'est l'essence de l'accord. L'accord qui a été signé n'est pas un bon accord. Et aujourd'hui, on voit le manque de sincérité des parties signataires. On voit que le peuple malien ne s'en est pas approprié. Et également, les mouvements armés qui ont signé l'accord ne sont pas les mandataires légaux des communautés qu'ils sont censés représenter. Donc, le problème qui est posé, c'est la mise en application intégrale de l'accord qui est impossible. Il ne faut pas qu'on se leurre.
Donc, attendez, à la base, vous dites que cet accord est un mauvais accord. Et en même temps, tout le monde dit, quand je dis tout le monde, le gouvernement, le président de la République du Mali, les partenaires internationaux disent que la paix ne passera que si cet accord est respecté.
Exactement, Juan. On n'a pas dit qu'il faut rejeter l'accord, mais on a dit que l'accord est mauvais. Il faut rééditer l'accord avec la bénédiction du peuple malien.
Et ça
cet accord n'est pas inclusif.
Oui,
cet accord ne peut pas résoudre le problème des Maliens.
Inclusif, qu'attendez-vous?
Désolé.
Abdelkader, vous avez le droit d'être désolé. Qu'attendez-vous de plus, alors, dans cet accord?
Exactement,
Juan. Non, mais qu'attendez-vous?
Oui, on a demandé à ce que dans son article 5, qu'il y ait une inclusivité pour commencer par une conférence d'entente nationale. Les Maliens doivent, parce que la conférence qui a eu lieu n'était qu'une mascarade de conférence. Il faudrait une vraie conférence d'entente nationale avec un engagement ferme des partis signataires et tous les peuples maliens.
D'accord, donc il faudra une conférence nationale, c'est-à-dire que tout le Mali, tous les représentants d'associations, sociétés civiles, de toutes les communautés, soient autour d'une table avec les groupes armés et on discute autour de cet accord.
Exactement, mais d'accord. Il faudra également que la communauté internationale cesse d'être partiale. La communauté internationale est en train de s'aveugler à demander la mise en application intégrale, à proliférer des sanctions, alors que nous savions très bien que la France avait libéré des terroristes ici, et ils sont encore dans la nature.
Vous parlez de prolifération de sanctions, excusez-moi de vous contredire, à ce jour, il n'y a eu aucune sanction adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU, alors que les textes sont là. Et c'est ce que regrettent un certain nombre de personnalités, c'est qu'il n'y ait pas effectivement de pression suffisante à travers les sanctions pour obliger les uns et les autres à respecter cet accord qui vous semble visiblement incomplet. On repasse au standard, 33 9 693 693 70. Shérif est avec nous. Oui, bonjour Shérif.
Bonjour Monsieur Rouen.
Bienvenue. Que pensez-vous de ce pacte pour la paix conclu en début de semaine?
Et ce pacte, Monsieur Rouen, était un énième accord signé entre le gouvernement du Mali et les groupes armés. Je pense que la responsabilité est partagée. Et Monsieur Rouen, comprenez avec moi que la majorité des Maliens n'ont pas lu ou ne savent pas le contenu même de l'accord issu du processus d'Alger. Je m'explique. La première responsabilité incombe à l'État, M. Rouen. L'État malien doit prendre les dispositions requises pour l'adoption des mesures réglementaires législatives. Donc, ce qui n'est pas du tout fait. Parce que l'accord prévoit de créer une police territoriale, M. Rouen.
L'accord prévoit, pardon, excusez-moi, je ne vous ai pas bien compris. L'accord prévoit...
La création d'une police territoriale.
Oui.
Chose qui n'est pas encore faite. Et l'accord prévoit également le cantonnement des combattants. Monsieur Roland, la commission DDR...
Désarmement, démobilisation.
Elle a toutes les difficultés, Monsieur Roland, à cantonner, en fait.
Parce on voit bien que le DDR, c'est compliqué de l'appliquer, de le mettre en place. Comment faire? Comment obliger les groupes armés à désarmer?
C'est ça, Monsieur Roland. Les partenaires du Mali doivent nous aider dans ce sens. Parce que l'aménagement, la CDAO, l'Union africaine doivent vraiment, comme l'a dit le président auditeur, doivent brandir ces menaces-là, Monsieur Roland, pour obliger les groupes armés à accepter le cantonnement. Parce que tant qu'ils ne sont pas cantonnés, ils ne seront pas faits dans la commission d'IDR. Et l'État aussi doit prendre vraiment ses dispositions pour que cet accord-là soit effectif. Tant qu'on n'a pas les réformes constitutionnelles vraiment afférentes là, Monsieur Roland, on ne pourra jamais appliquer ces accords.
Alors, Shérif, vous êtes clair et net. J'ai bien compris, Shérif. Je vous interromps, on est déjà à la moitié du débat. Il y a beaucoup de monde sur le Mali à chaque fois, sur, en plus, ce processus de paix qui s'éternise. L'impatience se ressent dans vos propos. Bonjour, Charlie.
Oui, bonjour, monsieur Juan Gomez.
Alors, qui est responsable du blocage? Comment se fait-il que 3 ans et demi après la signature de cet accord, ce soit encore le statu quo?
Ben, je pense que, monsieur Juan Gomez, nul besoin d'aller chercher ailleurs. Le responsable, ce n'est rien d'autre que les signataires, les protagonistes de cet accord. Mais tout d'abord, moi, je pense que l'histoire retiendra que ceux qui aujourd'hui se font appeler CMA, plateforme MMMA et compagnie, et qui auraient autrefois formé dans leur ensemble l'entité du MLA, auront causé à la République et à son peuple le plus grand tort de tous les temps, créant un désastre sans précédent.
D'accord. Charlie, on va pas refaire l'histoire du Mali. Je suis désolé. L'actualité, c'est la paix. C'est le processus de paix.
Absolument.
Alors aujourd'hui, Charlie, qu'est-ce qui bloque?
Mais qu'est-ce qui bloque? Peut-être la mauvaise volonté de la part des mouvements de la rébellion Touareg, qu'on les appelle CMMA ou plateforme ou autre, et c'est la même entité, quoi qu'il arrive.
Ce n'est pas, vous dites que c'est la même, excusez-moi Charlie, je suis loin d'être un expert, mais vous dites que c'est la même entité. La plateforme, c'est les groupes armés pro-gouvernement. La CMA, c'est la coordination des mouvements de l'Azawad. Ce n'est pas la même entité, excusez-moi.
Oui, bon, au départ, vous savez, ils se sont retrouvés à former pas mal de mouvements. Ce qui reste clair, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, tous ceux qui se disent républicains et qui aiment ces pays devront faire une prise de conscience et savoir que les Maliens en ont assez de tout cela et que nous voulons tourner la page. Nous voulons aujourd'hui faire face au développement.
Et comment, Charlie, c'est le débat du jour, ce ne sont pas des déclarations de bonne intention, c'est comment on tourne cette page justement?
Ben pour tourner cette page, il faut que les accords soient respectés par de part et d'autre. Le gouvernement malien a fait beaucoup, a œuvré pour la mise en place de cet accord, et a beaucoup fait. Nous sommes en phase d'intégration des combattants. Donc c'est à toutes ces plateformes, différentes plateformes, de savoir maintenant que on ne peut plus reculer, ou on avance, ou d'autres sanctions seront prises à leur égard.
D'accord. Donc vous aussi, vous attendez l'application de ces sanctions, notamment onusiennes. Merci Charlie, vous étiez en région parisienne. Bonjour Mama.
Oui, bonjour.
Comment réagissez-vous, Mama? Est-ce que vous partagez le point de vue de l'auditeur dont je parlais tout à l'heure, un auditeur Facebook qui nous dit « Une bonne partie des Maliens ne voulait pas de cet accord qui nous a été imposé
». Je suis en partie d'accord avec cet auditeur, mais pour moi, c'est pas imposé, parce que les parties prenantes n'étaient pas obligées de signer. Donc je pense que le problème aujourd'hui, pour avancer dans ce pays, il faut totalement réviser cet accord qui a déjà montré ses limites dans sa mise en œuvre. Et ça, nul ne peut en douter. Et je pense qu'il y a eu des difficultés, et les difficultés, c'est de part et d'autre, autant du côté du gouvernement que des groupes armés, qui en partie sont divisés entre eux, et du côté du gouvernement, il n'y a pas eu une bonne communication avec la majorité de la société malienne, et qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont l'impression que cet accord risque d'aboutir à une partition du pays.
Vous pensez que c'est sérieusement, Mama, vous pensez encore qu'une partie de la population est encore aujourd'hui convaincue qu'il y aura à terme une partition du pays, alors que jusqu'à présent, les autorités ont toujours dit, hors de question évidemment, qu'il y ait une partition du territoire malien?
Vous voyez d'ailleurs tout le débat politique pendant l'élection et même après l'élection, aujourd'hui tourne autour de la mise en œuvre de l'accord où on soupçonne le gouvernement actuel d'avoir mis en œuvre les moyens qu'il faut pour éventuellement aboutir à une partition du pays.
Mais ça, c'est...
Et le gouvernement aujourd'hui ne fait pas l'effort qu'il faut pour communiquer et puis éventuellement décider de mettre en place en fait une structure qui fera en sorte que les gens vont s'asseoir pour finalement discuter de fond en comble.
Mais enfin, les gens discutent, Mama. Excusez-moi, quand vous dites il faut que les gens discutent, pas plus tard que lundi, ils discutaient ensemble. Il y a eu des heures et des heures de discussion pour parvenir à ce pacte de la paix.
Oui, mais quand je parle en fait, je parle de la société malienne en totalité, les groupes armés de l'autre côté, mais le vrai problème aussi qui se pose, c'est que de part et d'autre, il n'y a pas une forte adhésion aujourd'hui de la société malienne à cet accord. Et les gens sont très pessimistes pour sa réussite. Et je pense que dans la globalité, il y a quand même des difficultés avérées qui sont là, qu'il faut forcément résoudre avant de s'entêter à continuer à appliquer un accord qui a déjà montré ses limites.
Bien, ça a été dit. Merci beaucoup, on vous a entendu. Bonne journée à vous. Toguma sur Facebook nous dit « La mise en œuvre de l'accord pour la paix n'est pas du seul ressort du gouvernement malien. Cette mise en œuvre dépend également de l'engagement et de la bonne foi des groupes armés, des groupes non signataires, des communautés présentes au Mali et surtout de la communauté internationale. Le Mali, nous dit cet auditeur, a besoin de moyens pour concrétiser les engagements contenus dans le document qui est pour le moment le seul à pouvoir garantir la paix. C'est exactement ce que disait il y a encore quelques semaines le président Ibeka à la tribune des Nations Unies. Oumar, pour terminer. Bonjour Oumar.
Bonjour.
Vous êtes optimiste ou pessimiste? À l'instant, le dernier auditeur était très pessimiste, lui.
Moi, je n'abonde pas dans le sens du précédent intervenant. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées qui font qu'aujourd'hui, il y a des discussions, ok? Il y a des discussions qui se font et que les gens arrivent à trouver des pistes pour pouvoir arriver à l'exécution totale quand même, ou bien plutôt partielle, de cet accord-là. Donc moi, je suis assez optimiste et je pense que nous avons, au regard des développements, des derniers développements de la situation par rapport au DDR déjà, il y a des informations que je ne vais pas dire en ligne tout de suite, mais je sais que très récemment, très bientôt, au niveau de Sévaré, il y aura des camps où les gens seront rassemblés pour commencer les prémices de ce DDR-là.
Oui. Donc, et certains, Oumar, vous êtes optimiste, mais certains vous diront, il était temps, 3 ans et demi après la signature de cet accord conclu, enfin un centre de désarmement à Sévaré, par exemple. Le débat, en tout cas, est loin d'être clos, on aura peut-être l'occasion, si vous le souhaitez, demain, de le prolonger, demain vendredi, libre antenne. prochaine, questions et réactions sur l'actualité de votre choix.
C'était Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile.
Bonjour Caroline Paré.
Bonjour.